Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui, Nathalie Barge et Chérubin Dorcil en direct à Washington. Bienvenue à l'écoute de cette émission du 19 janvier 2015.
Les grands points de l'actualité, tension en RDC, un mouvement de protestation contre la loi électorale a fait au moins 4 morts à Kinshasa.
Les ONG de défense des droits de l'homme parlent de 8 blessés, mais selon le porte-parole du gouvernement, il y aurait 4 morts.
Entre-temps, à Goma, au Nord Kivu, plusieurs partisans de l'opposition ont été arrêtés. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place.
3 jours de deuil national au Niger, suite aux émeutes qui ont fait au moins 10 morts à Niamey et Zinder.
La centaine de militants, dont des leaders de l'opposition, interpellés dimanche matin pour avoir tenté de tenir une manifestation interdite, sont toujours dans les locaux de la police.
Et le point de mire partout en Afrique, c'est la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.
Encaisser un but comme ça dès la première minute, c'est pas ce qu'on avait voulu. On a fait une très mauvaise entame, on a rectifié en deuxième mi-temps en mettant un petit peu de rythme.
On aura donc les dernières infos avec Nicolas Pinault dans le journal de la CAN. Et comme d'habitude, eh bien la page économie et la musique, mais d'abord le journal.
Depuis ce lundi matin, les rues de Kinshasa sont fortement quadrillées par les forces de l'ordre, en particulier les abords du Palais du Peuple. C'est là que les sénateurs congolais doivent voter la loi électorale adoptée samedi soir par les députés. Le point avec Eric Ambago de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
Ils étaient des milliers dans les rues de Kinshasa. À l'appel de l'opposition, ces militants protestaient contre la modification de la loi électorale. Ils se sont heurté à un dispositif militaire et policier, dispositif déployé à l'occasion de l'arrivée à Kinshasa du président angolais Eduardo dos Santos. Si certains opposants ont pu manifester avec leurs militants, d'autres ont été bloqués au siège de leur parti avant d'être libérés. Les forces de l'ordre n'ont pas hésité d'user de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Les ONG de défense des droits de l'homme parlent de 8 blessés, mais selon le porte-parole du gouvernement, il y aurait 4 morts, 2 côté force de l'ordre et de côté civil, tous des morts par balle. La circulation et les commerces étaient paralysés au courant de la journée. En début de soirée, le calme était en train de revenir, même si, dans certains quartiers, des poches de résistance étaient enregistrées. De Kinshasa, Eric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
Et cette situation tendue à Kinshasa intervient alors que Joseph Kabila reçoit son homologue angolais José Eduardo dos Santos. L'opposition congolaise, elle, demande au peuple de maintenir la pression pour empêcher l'adoption de la réforme électorale. Vital Kamerhe affirme être encerclé dans son quartier général de Kinshasa par la police congolaise. On écoute le président de l'Union pour la Nation congolaise, contacté par Nicolas Pinault.
Je dis qu'aujourd'hui, le peuple congolais a décidé de prendre son destin en main. Il faut aller barrer la route à la loi qui viole la Constitution et qui consacre le glissement du calendrier électoral, alors que la date pour la convocation du scrutin est dans la Constitution, c'est l'article 73. Le peuple devait choisir ou vivre une monarchie sous forme d'esclavage ou alors s'élever et marcher. Nous devons féliciter ce peuple qui a compris son destin. Entre ses mains, tous les leaders politiques qui ont aujourd'hui et précéder ce peuple comme une espèce de lampe-témoin. C'est cela quand on s'y fait la main au niveau du leadership, le peuple ne peut que suivre. Et ça ne fait que commencer, mais la pression doit être maintenue. Il faut accepter qu'on puisse monarchiser les Congolais.
Vital Kamerhe, leader de l'UNC. Et d'autre part, plusieurs personnes ont été arrêtées à Goma, dans la province du Nord Kivu, lors de la marche des partis politiques de l'opposition contre l'adoption du projet de loi électorale. On fait le point avec Primo Pascal Rodaïgua.
Parmi les personnes arrêtées figurent Rubens Mikindo de l'UDPS, Jean-Baptiste Kasekwa et Christian Badossé, tous deux de l'ECID. Plusieurs autres opposants ont échappé de justesse. C'est le cas de Hubert Machukano de l'UNC qui vit dans la clandestinité. Il a été joint au téléphone.
Ils ont tout fait pour empêcher cette manifestation. Ils sont passés sur pas mal de chaînes pour nous empêcher. Nous sommes dit, eh bien, ça ne doit pas aller, un peuple se libère. C'est comme ça que, courageusement, nous sommes descendus dans la rue et c'est pour nous un signe de satisfaction. Et finalement, le peuple, malgré les intimidations, est en train de se libérer.
Le maire de Goma, Nasson Kubuyandole, qui a donné l'ordre d'arrêter les manifestants, n'a pas tenu compte des dispositions constitutionnelles.
Je ne saurais pas permettre qu'il y ait des agitations, des regroupements, des manifestations dans cette ville, étant donné que les services de sécurité sont en alerte pour essayer de retrouver la paix et la tranquillité au profit de la population. Et la police est déjà avertie.
Les activités sont restées paralysées dans une partie de la ville. Quelques magasins, banques, écoles et marchés n'ont pas fonctionné. Des échauffourées se sont poursuivies jusque dans l'après-midi entre les habitants du quartier populaire de Biréré et les éléments de la police nationale. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique.
L'armée camerounaise dit qu'au moins 24 otages qui ont été capturés par Boko Haram ont été libérés. Des précisions avec Eddy Isango.
Les porte-paroles militaires camerounais, le colonel Didier Badjek, a déclaré aux journalistes ce lundi que les soldats ont sauvé les otages quand ils ont chassé les militants de l'extrême nord du Cameroun. Les médias locaux indiquent qu'au moins une partie d'otages s'est échappée ou a été libérée intentionnellement. Boko Haram détient toujours entre 30 et 50 personnes enlevées dimanche dans un raid transfrontalier. Selon les autorités, le groupe armé a brûlé environ 80 maisons et tué plusieurs personnes lors de son attaque dans les villages des Mabas. Samedi, le Tchad a envoyé des milliers de soldats au Cameroun pour aider à combattre Boko Haram. Le groupe extrémiste a récemment mis en garde le président camerounais Paul Biya après des mois d'affrontements avec les troupes camerounaises. En début du mois, il a pris le contrôle d'une base sur les rives du lac Tchad. À l'approche de l'élection présidentielle du 14 février au Nigeria, de nombreux Nigérians estiment que le président Goodluck Jonathan ne fait pas grand-chose pour arrêter les insurgés islamistes.
Le gouvernement du Niger a annoncé un deuil national de 3 jours en mémoire des 10 personnes mortes durant les émeutes contre la caricature de Mohamed publiée la semaine dernière par l'hebdomadaire français Charlie Hebdo. De vendredi à dimanche, plusieurs villes du pays ont été plongées dans des violences meurtrières, mais ce lundi matin, tout est rentré dans l'ordre. C'est ce que nous dit notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
C'est le calme à Niamey et dans les différentes régions qui ont connu entre vendredi et dimanche de violentes manifestations ayant entraîné la destruction de plusieurs églises, de résidences et autres biens publics et privés, mais aussi un lourd bilan humain de 10 personnes tuées, en mémoire desquelles un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement à partir de ce lundi sur l'ensemble du territoire national. La centaine de militants, dont des leaders de l'opposition, interpellés dimanche matin pour avoir tenté de tenir une manifestation interdite, sont toujours dans les locaux de la police. Ce matin, des responsables de l'opposition, dont Maman Ousmane et Seyni Oumarou, sont vainement allés chercher à les voir. Les partis de la majorité ont, dans une déclaration, fait porter l'entière responsabilité de ces événements aux principaux leaders de l'opposition, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale en exil en France, Mahamadou. Et depuis hier dans l'après-midi, différentes structures religieuses et de la société civile publient des déclarations d'apaisement et d'appel au calme, mais surtout de compassion à la communauté chrétienne sérieusement prise à partie lors des manifestations. Abdoul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Et ailleurs dans le monde, il y a également eu des manifestations anti-Charlie. Le point avec Michel Joseph.
Des musulmans en colère continuent de manifester contre la caricature de leur prophète, publiée la semaine dernière par Charlie Hebdo. À Jalalabad, en Afghanistan, entre 500 et 600 ont défilé aujourd'hui dans les rues de cette ville et brûlé un drapeau français, rapporte l'AFP. Au Pakistan voisin, des militants de partis islamistes ont voué aux gémonies et la France et Charlie Hebdo et réclamé à Peshawar, tout comme à Karachi, l'expulsion de l'ambassadeur français. Manifestations anti-Charlie également en Tchétchénie, en Iran et aussi dans la bande de Gaza. À Téhéran, plus de 2000 personnes en colère ont scandé aujourd'hui aux abords de l'ambassade française « Mort à la France, mort à Israël et nous aimons le prophète », alors que d'autres réclamaient la fermeture de l'ambassade. L'Iran a condamné à la fois l'attentat sanglant contre Charlie Hebdo et la publication du dessin, dénonçant un abus de la liberté d'expression.
Ouverture des écoles en Guinée aujourd'hui après un délai de 5 mois en raison d'Ebola. Le Libéria envisage de rouvrir les écoles le mois prochain.
Et au plan international, l'Iran annonce la mort d'un de ses généraux dans une frappe de l'aviation israélienne sur le plateau du Golan. Le général Mohamed Al-Adadi, un ancien commandant de la garde révolutionnaire, a été tué en même temps que 6 membres du groupe chiite libanais Hezbollah. Israël n'a pas confirmé l'attaque.
et le répit aura été de courte durée en Ukraine. D'intenses combats ont été signalés dans l'est du pays entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes.
Et c'est férié ce lundi aux États-Unis, Martin Luther King Day, une fête instituée en 1983 lorsque le président Ronald Reagan a signé une loi consacrant le troisième lundi de janvier en l'honneur du docteur Martin Luther King Jr. qui est né le 15 janvier 1929. Et voilà pour le journal. À présent, les sports.
Et on accueille en studio Nicolas Pinot.
Oui, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. L'Algérie favorite fait son entrée dans la compétition depuis presque 45 minutes. Et hier dans le groupe B, tout le monde s'est neutralisé. Les choses sérieuses ont donc commencé dans le groupe C. Aujourd'hui à Mongomo, le Sénégal qui a battu dans les arrêts de jeu le Ghana 2-1. C'est André Ayou qui a ouvert le score sur pénalty à la 14e minute de jeu pour les Ghanéens. Ce score n'a pas découragé les Lions de la Teranga qui ont réussi à revenir au score grâce à Mamdiram Diouf, le joueur de Stoke City. Puis dans les dernières secondes de jeu, au bout de l'effort, Moussa Sow croise sa frappe et trompe Brahima. Score final 2-1 pour le Sénégal qui jouait pourtant sans Sadio Mané. L'attaquant sénégalais de Southampton se remet toujours d'une blessure. Alain Giresse a donc choisi de le ménager. À noter aussi que côté ghanéen, c'est Jordan Ayew qui était titulaire en attaque à la place d'Asamoah Gyan. Le capitaine du Ghana, victime d'une crise de paludisme samedi, ne s'était pas entraîné hier. Et puis on va vous donner le score actuellement. Depuis 19h, temps universel, Afrique du Sud, Algérie. Et nous sommes bientôt à la mi-temps dans ce match à Mongomo. Et pour le moment, 0-0 entre les deux équipes. On rappelle que le 8e de finaliste de la dernière Coupe du Monde est favori pour ce tournoi. Christian Gourcuff, le sélectionneur de l'Algérie, a estimé hier en conférence de presse que ce serait manquer de respect vis-à-vis de l'Afrique du Sud et d'autres adversaires que de s'estimer favori. Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle, ne me teste pas. Écoute la foule crier, qu'on va. Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, le journal de la CAN. À suivre demain les rencontres du groupe D à Malabo avec la Côte d'Ivoire contre la Guinée. Le capitaine de la Côte d'Ivoire, Yaya Touré, a déclaré ce lundi en conférence de presse que c'était désormais à lui de passer le relais et d'offrir son savoir aux plus jeunes. Après la retraite internationale de la légende, Didier Drogba, de son côté Ibrahima Traoré, milieu de terrain de la Guinée, le seul des trois pays d'Afrique de l'Ouest touché par le virus Ebola à s'être qualifié pour la CAN, il a expliqué que les joueurs ghanéens ont forcément une responsabilité vis-à-vis de la population. Autre choc, Mali-Cameroun avec les Lions indomptables retrouvés depuis les éliminatoires. Écoutons tout de suite le fameux coup de sifflet de Jules Valentin-Goué.
Bonjour. Jamais équipe des Lions indomptables du Cameroun n'a abordé une phase finale de la CAN avec une telle illisibilité. À chacune de ses apparitions passées, et quelle que soit la qualité du groupe, ce qu'on appelle les Allemands d'Afrique figuraient toujours parmi les favoris. Mais pour cette édition, qui se joue pratiquement sur leur terre, les Lions laissent dubitatifs la plupart des spécialistes. En effet, après le tourbillon du renouveau qui a soufflé sur et autour de la sélection en moins de 6 mois, tout a presque changé. L'environnement de l'équipe, si nuisible aux Lions, a été assaini et de nouveaux joueurs jeunes ou en quête de reconnaissance ont remplacé les habituelles vedettes jugées capricieuses. La concurrence est devenue rude et l'envie de gagner habite de nouveau la tanière. La phase éliminatoire parfaitement négociée a permis d'évaluer cette motivation. Mais cette envie de jouer suffira-t-elle pour réussir une bonne phase finale? La question se pose, car même si le Cameroun a démontré une solidité défensive retrouvée et un jeu en profondeur percutant, bien exploité par des attaquants vifs, il a aussi étalé des insuffisances criantes dans l'animation du jeu offensif en attaque placée, qui peut le desservir si l'équipe venait à être menée. L'issue de la rude bataille physique qui attend les Camerounais face à une équipe malienne aux caractéristiques similaires sera déterminante pour la suite de la compétition. À demain.
Merci Jules Valentin. Rappelle le score, hein. Algérie, République sud-africaine, 0-0, 45 minutes de jeu à Mongomo. Et demain les matchs Mali-Cameroun et évidemment la Guinée contre la Côte d'Ivoire.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors le président angolais José Eduardo dos Santos était aujourd'hui à Kinshasa, n'est-ce pas Bagassi?
Oui, il a rencontré son homologue congolais Joseph Kabila. Les deux hommes devraient signer des accords de coopération, notamment dans le domaine des transports. Et selon l'AFP, cet accord va permettre à la TAAG, la compagnie nationale angolaise, de reprendre les vols entre Luanda et Kinshasa. Les deux chefs d'État devraient aussi discuter du titanesque projet de barrage hydroélectrique Dinga en RDC, conçu pour être le plus grand du monde et devant permettre à Kinshasa de devenir un fournisseur d'électricité dans toute l'Afrique australe.
Et l'Angola subit de plein fouet la chute du prix de l'or noir et se serre la ceinture, n'est-ce pas Bagassi?
Oui, le budget du deuxième producteur de pétrole du continent après le Nigeria va être révisé. Selon l'AFP, les mesures d'austérité ont été annoncées qui pourraient alimenter le mécontentement social. L'Angola tire près de 70% de ses ressources fiscales du pétrole. Le pays souffre depuis juin de l'effondrement du prix de l'or noir.
Quant au premier producteur de pétrole sur le continent, il annonce une diminution du prix de l'essence à la pompe.
Oui, c'est la ministre du pétrole, Diezani Alison Madueke, qui a fait l'annonce dimanche à un mois des élections présidentielles et législatives. Selon l'AFP, le litre de l'essence jusqu'ici fixé à 97 naira, soit 45 centimes d'euros, devrait passer dès hier à 87 naira, soit 40 centimes d'euros. Le Nigeria, qui extrait environ 2 millions de barils de brut par jour, importe paradoxalement la majorité de son carburant car il ne dispose pas de la capacité de raffiner.
Et pour terminer ce cri d'alarme d'Oxfam, les très très riches sont de plus en plus riches.
Oui, 1% des personnes les plus riches du monde détiendront la majorité de la richesse mondiale l'année prochaine. C'est la conclusion d'un nouveau rapport de l'ONG Oxfam. L'ONG soutient que la part de fortune des plus riches a grimpé à 48% en 2014. En 2009, souligne l'ONG, ce chiffre était à 44% et passera probablement, pense l'ONG, à 50% en 2016. Le rapport a été publié ce lundi avant la réunion annuelle du Forum économique mondial cette semaine à Davos, en Suisse.
Merci Bagassi pour la Minute Éco. Le Monde aujourd'hui, Nathalie Barger, Chérubin Dorcil en votre compagnie pour cette édition du 19 janvier 2015. À présent, les dossiers du jour. Au Togo, la révision de la liste électorale pour la présidentielle débute demain dans la partie septentrionale du pays. Dans le même temps, la rue menée par les organisations de défense des droits humains réclame des réformes. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kay Lawson.
De mardi à vendredi, la synergie des organisations de défense des droits de l'homme et le combat pour l'alternance politique en 2015-CAP 2015 étaient dans les rues. À travers des sit-ins quotidiens, les manifestants réclamaient la révision de la Constitution, comme nous le dit celui-ci.
Nous voulons les réformes parce que Faure Gnassingbé nous gouverne avec la dictature. Tout ce que nous sommes en train de dire, il ne nous écoute pas. Nous voulons qu'il dégage. Il avait demandé, ça suffit.
Après un sit-in sans heure le mardi 13 janvier de 10h à 20h, le lendemain, c'est-à-dire le mercredi 14, la manifestation ne s'est pas déroulée dans le calme. Les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour empêcher le sit-in, mais c'est sans compter avec la détermination des manifestants. Nous écoutons l'un d'entre eux.
On n'est pas content parce que trop, c'est trop. Gnassingbé, c'est trop. Il faut venir, il a tué des milliers de personnes. Mais il voulait encore aller à l'élection. Ça donne à quoi?
Alors pourquoi vous ne voulez pas quitter la rue aujourd'hui?
Non, la rue là, c'est pour nous. C'est pour le peuple. Si le peuple en connaît, il peut dormir sur la route jusqu'à n'importe quand. Ce qu'il veut, il satisfait, il rentre à la maison.
Pendant que la rue grogne, la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit son travail pour l'organisation de la présidentielle. La révision de la liste électorale débute ce mardi 20 janvier et ce jusqu'au 23 février prochain. Pour le coordonnateur du collectif Sauvons le Togo, il ne peut pas avoir d'élection sans les réformes au Togo.
Nous avons dit en 2013 que sans les réformes, on n'ira pas aux élections législatives. La communauté internationale nous a dit de laisser couler, d'aller aux élections, que les réformes se feront après. Mais là, maintenant, là, sans réforme, on ne peut pas avoir d'élections présidentielles.
Durant la semaine écoulée, une mission des Nations Unies a séjourné au Togo. Elle a eu à rencontrer les acteurs politiques de tous bords. Le coordonnateur du mouvement sénégalais Yanama, Fadel Barrow, a également fait le même exercice.
Il est très difficile d'avoir aujourd'hui une position parce que même au sein de l'opposition, il y en a qui pensent qu'il faut passer aux réformes, d'autres avant ou après l'élection. Il y en a qui pensent que oui, il faut peut-être laisser faut faire un mandat. D'autres pensent que non, il doit partir tout de suite. C'est à eux d'avoir un seul discours, d'identifier des points sur lesquels ils peuvent tous être d'accord et se mobiliser pour ça.
Même si le président Faure Gnassingbé lui a déclaré que la Constitution sera respectée, il vient d'annoncer la mise en place d'une commission de réflexion sur la réforme politique. Kailosson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Au Cameroun, grogne des ex-employés des sociétés d'État liquidées ou structurées qui revendiquent le paiement de leurs arriérés de primes. Un reportage de Jules Elobo à Yaoundé.
Ces personnes, dont la plupart sont du troisième âge, revendiquent depuis plusieurs années le paiement de leurs droits sociaux. Réunis au sein d'un collectif, ils, ces ex-employés, se disent déterminés. René David Mukonda, président du collectif des ex-employés des sociétés d'État liquidées ou restructurées.
Le collectif réclame le paiement des reliquats de leurs droits sociaux et la prime de reconversion qui avait été instruite par le président de la République en 1988 et qui fait l'objet de beaucoup de discords. La prime de reconversion, vous savez, le président de la République avait sorti une instruction en 1988 que toutefois lorsqu'une entreprise d'État parapublique est fermée ou restructurée, le personnel mis dehors doit bénéficier d'une prime de reconversion de 12 mois pour aller se reconvertir. Cette prime n'avait jamais été payée.
Suite à la crise économique que traversait le Cameroun pendant les années 90, l'État s'est senti dans l'obligation de restructurer ou même de liquider certaines de ses entreprises, d'où le nombre impressionnant des employés mis à la porte. René David Mukonda.
53 sociétés pour plus de 25 000 personnes. Parce qu'avant, on était à 23 000 personnes. Mais il y a pour 48 sociétés. Mais actuellement, il y a 3 sociétés qu'ils ont ajoutées. Donc, on suppose qu'il peut y avoir au moins 24 000 personnes pour un chiffre de 25 milliards environ.
Les revendications sont donc devenues récurrentes pour ces vieillards obligés de descendre à chaque fois dans la rue pour obtenir une partie de leur paiement. Bouba Oumarou, un des ex-employés.
Ce que nous avons eu, n'est-ce pas, à déplorer. Vous vous rendez compte que depuis 1997 à ce jour, on ne finit pas, n'est-ce pas, de payer, n'est-ce pas, ces droits. Alors, et que avant que, n'est-ce pas, les droits ne soient payés, il va falloir à chaque fois, n'est-ce pas, descendre dans la rue. C'est-à-dire, le gouvernement ne s'est jamais décidé, de sa propre volonté, nous inviter à venir percevoir, n'est-ce pas, nos droits. Il faut à chaque moment faire, n'est-ce pas, des mouvements que vous voyez ici de suite.
Une attitude qui pourtant n'arrange pas les revendicateurs.
Mais alors ce sont des paiements que nous dénonçons parce que c'est des paiements, n'est-ce pas, qui ne nous arrangent pas. C'est fait, n'est-ce pas, en monnaie de singe, qui font, n'est-ce pas, en sorte que vous n'arrivez même pas, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, vous investir dans quoi que ce soit.
Et pour cause, plusieurs d'entre eux sont déjà passés des vies à trépas sans qu'ils aient perçu le moindre sou.
Nous avons perdu au moins le tiers de nos emplois, de nos ex-employés depuis 88. Hein. Tous les jours, ils meurent. D'accord. Tous les jours, moi-même, ici, là, hier, je suis tombé.
Face à cette énième revendication, les autorités viennent de solliciter un délai de 3 semaines pour réfléchir sur les solutions à apporter au problème. Yaoundé, Jules Elobo, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Le président américain Barack Obama s'apprête à prononcer demain soir à Washington le discours traditionnel sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies du Congrès. Des précisions avec Lionel Gaïma.
Ce discours coïncide avec une vigilance accrue à Washington et ailleurs à la suite des récents incidents violents en Europe à la suite de l'attaque sanglante de Paris contre le magazine Charlie Hebdo. Il y a eu notamment la fusillade en Belgique, des descentes de police en Allemagne, des arrestations en Grèce et de façon générale le renforcement de mesures de sécurité à travers l'Europe. L'analyste Rob Wainwright, directeur d'Europol, une agence de maintien de l'ordre de l'Union européenne. Ce n'est pas comme les jours après le 11 septembre 2001. Intervenant hier sur le programme ABC This Week, M. Renwright a souligné que les mesures de sécurité doivent coller aux réalités d'une menace qui change constamment. Nous voyons une réponse très déterminée du gouvernement, des autorités policières de nos nations et au niveau des institutions comme Europol qui passent en revue et d'urgence les moyens de mieux appuyer partout les services de lutte antiterroriste, de partager plus efficacement des renseignements et aussi de suivre le financement du terrorisme, le trafic illicite d'armes à feu et surtout la surveillance des activités terroristes en ligne. Pour le président Obama, qui espère pouvoir travailler avec les républicains qui contrôlent maintenant les deux chambres du Congrès sur un agenda qui inclurait les priorités intérieures, des développements imprévisibles sur le plan international le forcent à accorder une plus grande attention aux questions de sécurité ici même aux États-Unis et à l'étranger. Ce phénomène d'extrémisme violent, cette idéologie, ces réseaux, la capacité de recruter des jeunes gens s'est métastasée et a atteint les communautés à travers le monde. C'est un problème qui pose beaucoup de peine et de tragédie et de destruction, mais un problème que nous finirons par vaincre. Avec les cellules dormantes qui existent, dit-on, dans de nombreux pays, et le risque de voir les extrémistes du monde entier faire cause commune après l'incident Charlie Hebdo, l'administration Obama et les autres gouvernements ne se demandent pas s'il y aura une attaque terroriste, mais plutôt quand et où elle sera tentée.
Merci Lionel Gaïman. Et à présent, la page musicale.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Une voix immortelle, celle du docteur Martin Luther King Jr., le leader emblématique du mouvement des droits civiques ici aux États-Unis dans les années 50 et 60. Et Roger Muntu, pour notre page musique, justement, on aura un hommage au
bien sûr,
Dr.
Bien sûr,
King.
Que... Salut Nathalie, salut Gabi. L'artiste Stevie Wonder a écrit la chanson Happy Birthday pour rendre hommage à Martin Luther King, pasteur baptiste afro-américain, un militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Au milieu de la chanson, d'ailleurs, Nathalie, on l'entend dire « Thanks to Martin Luther » pour dire merci à Martin Luther. Stevie Wonder insiste dans ses paroles sur les valeurs chrétiennes qui fondent le rêve de King, le bien, la paix, la vérité et l'amour.
Martin Luther King, hein, on est tous là pour le remercier. Et dans cette chanson, Stevie Wonder revendique un jour entier de souvenirs, Roger.
Exact, Nathalie. Et c'est le 2 novembre 1983 que le président Ronald Reagan signe la loi créant un jour férié fédéral pour honorer Martin Luther King. Il est observé, bien sûr, pour la première fois le 20 janvier 1986.
Wonder, happy birthday to you. Merci beaucoup, Roger.
C'est moi qui vous dis merci, Nathalie.
On vous retrouve dans le RM Show à 20h, temps universel.
Yes.
Et voilà, c'est ainsi que se referme Le Monde aujourd'hui, présenté par Nathalie Barge et Chérubin Dorsil. Josèle Morissin était à la mise en onde, accompagnée par Zuber Taïb. Très bonne soirée à tous. Dans quelques minutes, Roger Muntu.